Radio Campus, il est 9h.
La Villa Cavrois à Croix a fêté ses 10 ans d'ouverture au public. Une occasion de m'y rendre pour vous faire découvrir ce lieu témoignant de l'époque révolue du textile florissant aux environs de Roubaix. Voilà, aujourd'hui jour de fête à la Villa Cavrois à Croix. Bonjour.
Bonjour, je suis Karine Guimbard, l'administratrice de la Villa, et nous fêtons aujourd'hui les 10 ans d'ouverture du monument. Nous avons invité différents artistes à faire la fête avec nous et avec nos nombreux visiteurs.
Dans ce lieu qui est très symbolique d'une époque, peut-être qu'on pourrait raconter un peu son histoire.
Alors cette architecture a été édifiée par Robert Malestevens, l'architecte, en 1932 pour le couple Cavrois, des industriels du textile. Et ce riche couple des Hauts-de-France, en fait, a passé commande de cette architecture emblématique à Robert Malestevens, s'il voulait vraiment s'inscrire dans la modernité de l'époque.
Alors c'est vrai que cette modernité, elle a traversé le temps. Aujourd'hui, elle a été rénovée d'une certaine manière. Donc il y a derrière beaucoup d'appui des monuments historiques, j'imagine.
Alors cette villa, depuis plus de 10 ans, donc 10 ans d'ouverture, mais à peu près plus d'une dizaine d'années avant de travaux, donc ce sont de nombreux corps de métier, l'architecte en chef, les entreprises qui ont aidé à la remise en état de cet édifice dans le cadre de sa livraison 1932.
Donc cet édifice a servi de lieu d'habitation, de bureau aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce grand, on va dire c'est presque un immeuble, hein ?
C'est une architecture domestique, donc pour une famille, mais Monsieur Cavrois y recevait aussi ses nombreux clients.
Voilà, donc un lieu aussi symbolique d'une époque où l'industrie était florissante.
Oui, tout à fait, c'est vraiment, on était première moitié du XXe siècle, effectivement l'industrie textile du nord des Hauts-de-France aujourd'hui, toute la région ce textile était extrêmement florissant et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont passé commande pour cette grande villa.
Donc la Villa Cavrois, à un moment donné, était un peu délaissée, sinon abandonnée. Depuis, ça s'est, on va dire, remis en forme pour que le public participe aussi à ce monument patrimonial.
Oui, l'idée, c'est vraiment de faire partager au plus gros nombre cette passion pour l'architecture et puis cette vie moderne que proposait l'architecte à la famille Cavrois. Effectivement, la villa a été habitée par la famille jusqu'en 1986 et ensuite elle a été vendue et puis elle s'est délabrée, elle a été laissée ouverte par des promoteurs qui l'avaient acquise et qui espéraient lotir et faire des programmes. Quand ils ont vu que le bâtiment était classé et qu'ils ne pourraient pas, ils ont laissé ouvert le bâtiment qui a été squatté. Elle a été extrêmement délabrée quand l'État a pu l'acquérir ensuite et lancer son programme de restauration.
J'imagine que ça a dû coûter assez cher, hein, et que donc l'intérêt maintenant, c'est que le public se l'approprie.
Oui, alors ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, 10 ans après son ouverture, c'est que les gens de la région viennent et reviennent et présentent à leurs amis cette architecture comme étant la leur, enfin en tout cas faisant partie de leur mémoire, de leur patrimoine. Donc ça, c'est une grande réussite pour nous. Et puis on essaye de l'ouvrir à tous les publics, à l'international, aux publics qui ont peut-être moins l'habitude de visiter aussi ces monuments.
Est-ce que cet immeuble-là a des correspondances ailleurs en France, sinon dans le monde ?
Alors, il y a de très belles architectures iconiques du XXe siècle, mais ici, on est sur plus de 2400 mètres carrés de plancher. On avait vraiment une appellation de château moderne. Donc, cette surface est extrêmement importante et la qualité très exigeante de la restauration en font quand même une œuvre d'exception, tant en France qu'à l'international.
Donc il y a cet immeuble et pas loin de là, il y a un grand jardin qui est classé aussi, on peut peut-être en dire un mot.
Alors, vous parlez peut-être du jardin Malet Stevens. Alors, c'est un jardin qui a été créé en l'honneur de Malet Stevens par les services de la ville de Croix, de manière à avoir un espace vert très aménagé à quelques encablures de la villa.
Donc, on peut dire que ça fait un ensemble où il est intéressant de venir, même se déplacer spécialement.
Alors oui, on peut tout à fait venir à la villa, profiter de son parc, et on a de nombreux jardins. Vous parliez du jardin Malet Stevens, mais aussi le parc Barbieux, qui est à quelques encablures et qui est magnifique également.
Donc cette animation, comme aujourd'hui, pour vous, ce sera tous les 10 ans ou vous envisagez chaque année un gros événement à la villa Cavrois ?
Alors, pour l'instant, on ne s'est pas projeté, mais c'est vrai, quand on voit l'appétence, le plaisir, le sourire, les yeux qui pétillent aujourd'hui, on a quand même très envie de ne pas attendre 10 ans pour renouveler.
Voilà, donc vous devez être assez fier d'œuvrer à la perpétuation de cet endroit et d'en faire un lieu accueillant.
Oui, je partage avec toute mon équipe qui s'est investie. Et c'est vrai que quand on voit le sourire, les gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, qui partagent, on est vraiment ravis.
La villa Cavrois a été abandonnée durant des années et les travaux de remise en état des lieux, entrepris par l'État au travers des monuments nationaux, ont été conséquents.
Bonjour, je suis Charline Guibert, responsable du pôle de la communication digitale au Centre des Monuments Nationaux.
Donc ce lieu, Villa Cavrois, fait partie du patrimoine, je ne vais pas dire mondial de l'humanité, quoique, mais des monuments historiques.
Tout à fait, en effet, il a rejoint le réseau de nos 110 monuments nationaux que nous gérons au sein du réseau, au Centre des Monuments Nationaux. Et en effet, il fait partie de la petite dizaine de villas remarquables que nous valorisons au quotidien. Et c'est un des joyaux des Hauts-de-France. Et ici, on est, moi en plus étant sensible aux images, c'est un lieu très très médiagénique où on peut sans cesse faire des photos, le redécouvrir, capter la lumière. Donc moi, sur ma partie communication digitale, ici c'est un régal des yeux et aussi des images qu'on glane. Et en tout cas, comme monument accompagné, il est aussi très agréable par ses multiples images qu'on peut valoriser régulièrement. Et le nombre de sujets pour faire la promotion de ce monument est incroyable. Il y en a plein. Il y a l'entrée des objets, du mobilier, de l'extérieur, des points de vue, de comment on pouvait vivre au début du XXe siècle, c'était quoi être moderniste. Mais aussi, il y a toute cette question, et le cadre des 10 ans permet de questionner ça, c'est comment on restaure, comment on préserve, comment, par tout un champ de recherche, on essaie de restituer, reconstituer, ou essayer de retrouver quelque chose d'originel, même si tout ne sera jamais comme avant. Donc ce monument questionne aussi beaucoup ça, et les 10 ans permettent aussi, nous, sur nos réseaux sociaux, les sites internet, de raconter cette histoire, puisqu'aujourd'hui, tout paraît magnifique, mais tout a été aussi... on part de rien ou de quelque chose d'extrêmement abîmé et délabré, et voilà. Mais aujourd'hui, on s'émerveille. C'est une journée pour s'émerveiller.
La région de France est très riche en musées. Ce lieu, je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée, quoique.
Il peut être considéré comme un musée parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de choses aussi sur une œuvre d'art totale à la fin des années 20, au début des années 30. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, par la collection et le fait de remeubler, on le remeuble, ce ne sont pas les meubles originaux, mais quelque part, c'est un ensemble. Donc on peut presque le considérer comme le musée d'une époque ou le musée d'une œuvre. Peut-être même un manifeste de Malet Stevens où il a eu une sorte en 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans, de possibilité d'aller très très loin pour tout concevoir, quoi. Du moindre détail, de la visserie aux ouvertures, au choix des sols, des choses plus du design. Donc c'est vrai que c'est presque un musée de cette époque et de cet architecte incroyable.
Alors c'est vrai que dans ce secteur qui fut habité par des riches, on m'a dit qu'il y en avait encore, qui se cachaient. Il y a de beaux endroits comme on va dire le Grand Parc Barbieux. On a aussi le Parc Malet Stevens qui est juste à côté. Ça fait un ensemble cohérent.
Alors oui, ensemble cohérent. Alors moi, je ne connais pas peut-être encore moins que vous quand même tous ces lieux à les fréquenter quotidiennement. Mais en effet, il y a un ensemble cohérent. Moi-même, quand je suis ici, je pense à d'autres architectures de la métropole. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté le LAM. C'est loin et on est très loin, mais il y a quand même ce rapport aussi à une brique, à des formes qu'on peut retrouver. Donc je suis... voilà, dans ce que je connais de cette région, de cette zone du Nord, il y a plein de choses en écho qu'on arrive à relier, même à des époques très très diverses, 100 ans après. Donc je trouve qu'il y a un vocabulaire, oui, de formes d'architecture du XXe siècle dans cette région qui est incroyable aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a une architecture du XXe et début XXIe assez incroyable dans cette métropole.
Est-ce que vous ressentez l'effet tourisme de ces lieux magiques ?
Bah, on voit qu'il y a quand même des visiteurs parfois qui avaient mis sur leur liste de venir à la Villa Cavrois un jour, et ça fait comme partie d'un voyage, hein, une opportunité, ou un moment ils sont dans les Hauts-de-France parce qu'ils vivent parfois loin, près de Lille. En fait, dans la liste, il y avait venir à la Villa Cavrois parce qu'ils ont vu beaucoup d'images, parce que parfois ils sont sensibles à l'architecture et ça fait partie de leur wish list, comme on dit aujourd'hui, de visites à faire, et un jour ils finissent par venir. Tout à l'heure, dans la journée, on a parlé à des gens qui, parfois, il y en a un qui venait de Lyon, ça faisait 15 ans, 20 ans, il disait qu'il devait venir, et il a saisi l'opportunité de venir travailler dans le Nord pour une réunion et de rester, et il savait qu'il allait venir la voir. Donc, c'est un lieu il y a beaucoup d'images qui circulent, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi les médias, la presse. Et je pense qu'à un moment, ça inscrit quelque chose comme un endroit qu'on veut absolument voir en vrai, parce que déjà, par les photos, il nous marque, il nous intrigue, il nous séduit, quoi. Donc, je pense qu'il y a des visiteurs, et puis il y en a, ils reviennent, ils sont venus une fois, ils veulent revenir, et voilà. Donc, il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin pour le voir, et même des étrangers, pas mal d'étrangers d'ailleurs, des Belges, des Allemands, de plus en plus apparemment d'Espagnols et d'Italiens, si on en croit les chiffres. Donc, voilà, ils donnent envie et... Il suscite de l'intérêt, mais même pour des gens qui viennent de plus loin et qui ne vont pas que visiter le Vieux Lille ou Notre-Dame de Paris s'ils passent à Paris. Donc il y a aussi un peu ce champ-là qui intrigue et intéresse, quoi.
Le domaine de la Villa Cavrois à Croix, près de Roubaix, est donc aujourd'hui ouvert au public et vaut la peine d'être visité. Une belle façon d'entrer dans notre patrimoine régional et national. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Hey, c'est Adrien Fedeli de l'émission Campus Sport Club. Vous êtes bien sur Radio Campus 106,6 FM en DAB+ et en réécoute sur campuslille.com. Et je vous souhaite une réjouissante journée sur notre antenne.
Alors voilà, on était bien planqués, Jojo et moi, boulevard Leclerc. Quand on les a vus débarquer, il y avait du louche, ça c'était clair. Ils avançaient, ils étaient trois, les deux bougnoules et puis le négro. Ils étaient attifés comme les rois et ils poussaient dans un chariot. Même que Jojo était d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les suit. Ouais, mais c'est toi qui écris un rapport. Ils avaient un complice, quelque part, qui leur envoyait des signaux qui brillaient bien haut dans le noir, comme une étoile, comme un flambeau. C'était du coup. Ils avaient pas l'air trop pressés. On les filochait à la cool. Surtout qu'un dimanche, en janvier, en pleine nuit, y a pas foule. Ils sont entrés dans la ZI, près d'un hangar, un Algeco, où ce qu'il y avait ce machin qui lui, au-dessus du toit, gaffe à nos os. Qu'a dit Jojo? Ils sont entrés dans la bicoque, avec leur caddie plein d'oseilles, et leurs bijoux, et leurs breloques. Tout ça brillait comme des soleils. On s'est approché des fenêtres, jeté un coup d'œil discreto. Il y avait un couple de métèques, un âne, une vache, et un marmot qui brillait comme sous un projo. L'aide de bougnoule et puis le négro, ils courbaient le dos. On les a serrés par surprise. Ils ont pas résisté bien fort. Sauf le môme qui a mordu ma chemise. On a collé en rétention les deux bougnous, les pulls négros, pour patienter avant l'avion. Mis au hachoir les animaux. Le reste au champ. Le couple est tombé pour recel et enlèvement à Mérogis. Figure-toi qu'elle était plus sale. Et lui, le minot, c'était pas son fils. Mais moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que personne n'a demandé le marmot, il a fini à la tasse. Ce môme-là, il montera trop tôt à l'échafaud.
Le Bivouac Festival fait son retour dans la forêt d'Olen, près de Béthune, pour une troisième édition. Du 29 au 31 août, vous pourrez assister à de nombreux concerts, mais aussi vous détendre et profiter d'activités sur place. On appelle cela un éco-slow festival. Pour en parler, Thibault Linares, chargé de communication de l'association Droit de Cité, qui fait partie des organisateurs de cet événement.
Donc, Droit de Cité est une association intercommunale de développement culturel qui existe depuis 91 et qui donc, avec les agglomérations, les communes, les salles participantes, mais aussi les associations, va mettre en place des festivals et des événements ponctuels pendant l'année. Donc on peut aller autant du festival d'art de rue que du festival jeunesse ou même du festival musique. Donc c'est vraiment très très large.
On peut citer par exemple les Enchanteurs, ça c'est un festival itinérant, et puis le Bivouac Festival, donc on va en parler aujourd'hui. C'est la troisième édition cet été. Comment il est né d'abord ce festival, parce que vous bossez là-dessus avec une société de production qui est lilloise?
Oui, avec À Gauche de la Lune. En fait, ça vient d'une idée du directeur d'À Gauche de la Lune qui, pendant le confinement, se demandait comment vivre autrement le festival, comment avoir un impact minime écologiquement sur l'environnement en proposant une programmation de qualité, mais aussi d'autres activités. Donc, à partir de là, À Gauche de la Lune a réfléchi à quel projet mettre en place en s'inspirant de deux festivals, un festival en Belgique et un festival en Angleterre, et donc pour le côté éco et slow, qu'on pourra peut-être détailler juste après. Et étant donné que voilà, Droit de Cité est reconnu sur le territoire notamment du Pas-de-Calais, ils ont pensé tout de suite à nous parce que le festival a lieu au Parc d'Olen, qui est juste à côté de chez Droit de Cité.
Donc on appelle ça un slow festival, si j'ai bien compris.
C'est ça, éco-slow festival.
Éco-slow festival, important de préciser. On peut tout de suite expliquer. Donc éco parce que vous avez décidé de le rendre le plus éco-responsable possible, on va le détailler aussi. Et slow parce qu'on profite, on prend son temps et on n'assiste pas qu'à des concerts, c'est ça?
C'est exactement ça. Le but, c'est de venir au festival et de profiter des infrastructures proposées par le parc, mais aussi des concerts, des activités proposées pendant le festival. Donc l'objectif, c'est voilà, de venir, de prendre le temps. En plus, ça tombe bien, c'est le week-end avant la rentrée scolaire, donc c'est vraiment un dernier moment de détente avant de la reprise. Et donc, on va être sur le côté éco, donc où là, il va avoir vraiment toute une démarche écologique, où on va cibler des artistes français ou belges à proximité du parc d'Olen et faire en sorte qu'ils puissent venir en train pour réduire les émissions de CO2. Mais il y a aussi une restauration avec des plats locaux, donc avec des denrées qui viennent du coin de chez nous. Donc voilà, il y a vraiment toute une dimension au niveau de l'écologie. Il y a même le papier, par exemple, pour la communication, où on fait très attention de ne pas utiliser trop de papier, de ne pas jeter de papier. Il y a vraiment, ça touche vraiment tout le festival, donc autant du point de vue organisation que communication.
Et puis dans un cadre exceptionnel, parce que le parc départemental d'Olen, c'est quand même 200 hectares. Alors c'est ciblé surtout les concerts au niveau du camping du parc d'Olen, mais on peut aussi profiter de plein d'activités au sein du parc. Donc on va parler d'abord de ces concerts sur cette scène du camping d'Olen, donc en pleine forêt presque, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc il y a des artistes français, des artistes européens, pas très loin on vient de le dire. Parmi les têtes d'affiche, on a notamment Odzen, ça se dit comme ça?
C'est ça, Odzen.
Qui propose quoi?
C'est un groupe de Bordeaux qui propose une musique alternative, donc on va avoir du rock, enfin vraiment, en fait il y a une couleur musicale lors du festival, pour moi c'est la pop, l'électro, et vraiment un melting pot de styles de musicaux qui vont se mélanger. Et donc chaque groupe aura vraiment son identité, mais on va sentir une sonorité similaire de chaque groupe. Et donc O2N, voilà, est vraiment dans la musique alternative. Donc ils vont piocher partout ce qu'ils peuvent retrouver, ce qu'ils peuvent aimer, et à partir de là, proposer leur propre style de musique.
Et puis il y a aussi le groupe High Fade.
Oui, High Fade, on va être plus sur du rock, même si on peut avoir des sonorités un peu plus disco, soul. Il y a beaucoup de morceaux que j'ai écoutés récemment et qui sont vraiment sympas, où des fois il n'y a même pas de paroles, et on va être vraiment sur un riff de guitare avec vraiment, voilà, comme si on écoutait un morceau, un peu de musique électro, en fin de compte, sans paroles, vraiment simple et qui se déroule tout seul, comme la musique classique, par exemple. Donc c'était vraiment, c'est vraiment un groupe à découvrir.
Et un artiste qui a aussi comme univers la pop et puis l'électro, c'est Malik Djoudi, qui a quand même été nommé notamment aux Victoires de la musique pour un de ses albums, c'est ça ?
Exactement. C'est un artiste qui a vraiment une voix singulière, qui risque de marquer vraiment le public. Et en tout cas, ça peut être vraiment une très belle découverte. En tout cas, je l'espère que voilà, le public va vraiment apprécier cet artiste qui a lui aussi son propre univers.
Alors, une bonne dizaine d'artistes qui seront là donc au Bivouac Festival et dans le Parc d'Olin. Donc, on peut aussi profiter des activités. Alors, il y a la piscine notamment, les fameuses luges. Il y a des cours de yoga aussi.
Oui, nous avons le Yoga Mix, donc, qui est du yoga avec de la musique, qu'il peut avoir lieu et qui aura lieu dans tous les cas. Et donc, voilà, c'est toujours ça, en fait, l'avantage de ce festival et le gros point fort, c'est qu'on peut venir avec son tapis de yoga, profiter de cette activité, c'est le matin, mais aussi on peut venir avec son vélo et faire un tour dans le parc. Enfin, pour un triathlète, par exemple, il peut aller à la piscine gratuitement grâce à son pass, avec son pass un jour plus activité. Il peut aller à la piscine, l'après-midi, aller faire du vélo et en fin de journée, aller courir. Donc, c'est vraiment, voilà, le but de ce festival, c'est profiter un maximum.
Le Yoga Mix, c'est une activité qui n'existe pas à la base au Parc d'Olin. Je suppose que c'est que dans le cadre du festival. Il y a d'autres activités qui sont mises en place que pour ce festival ?
C'est ça, c'est proposé par le festival. Mais il y a aussi le soir, le cinéma. En gros, en fait, dans la salle des trappeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un écran de cinéma avec un film pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment se détendre aussi, eux, de leur côté, et permettre aux parents aussi d'aller danser à côté en allant voir les groupes du soir. Donc, il y a vraiment ce côté très familial.
Et c'est important de le préciser. C'est important aussi d'évoquer les tarifs. Ça marche comment ? Ça marche au pass ? Donc, pass journée, pass week-end ?
C'est ça. On a les pass week-end et les pass journée. Donc, on a un pass journée pour le vendredi, un pass journée pour le samedi, mais aussi un pass week-end, donc qui comprend le vendredi, le samedi, mais aussi le dimanche matin, qui aura donc le dimanche matin des activités, mais aussi des concerts. Donc l'avantage, c'est que voilà, chacun peut venir au festival en fonction de ses moyens. L'objectif est vraiment de profiter un maximum sans devoir forcément se dire « mince, j'ai mis X euros dans ma place, faut que je profite un maximum parce que voilà, je dois consommer étant donné que j'ai mis une certaine somme ». Non, non, vous venez, vous profitez. En fonction de la journée, vous pouvez avoir autant les spectacles que les activités. Le but, c'est voilà, de ne pas se poser de questions et se détendre.
Et ça coûte combien ?
Donc, sur le pass week-end, on va être sur du 55 euros, 28 euros pour les moins de 14 ans. Et sur le pass jour, on va être sur 28 euros, sachant que le pass jour plus activité sera à 35 euros.
Et puis, bien sûr, on peut dormir au camping du parc. On peut aussi dormir dans des bulles, dans les arbres du parc de là. Enfin, voilà, il y a plein de choses sympas. Et vous attendez à peu près combien de personnes l'année dernière ? Il y avait combien de spectateurs à peu près ?
On aimerait bien qu'il y ait un maximum de monde. En tout cas, faire en sorte que le plus de monde puisse découvrir le festival, parce que c'est vraiment voilà, quelque chose de très sympa à vivre, en tout cas très intéressant. Pour en revenir par exemple au camping, l'avantage c'est que c'est bien balisé, en tout cas c'est bien structuré sur le côté éco, donc on va pas devoir installer ou casser par exemple ou faire des trous pour pouvoir installer le public, tout est déjà mis en place, donc on peut accueillir beaucoup de monde, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Et voilà, même pour le côté camping, vous pouvez venir autant avec votre tente que venir dans les bulles, sachant que les bulles, voilà, il n'y en a que deux, donc faut pas non plus trop tarder si jamais on veut faire ce genre de aller dans ce genre de prestation. Donc c'est voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc on aimerait bien 2000 personnes. Maintenant voilà, c'est les festivals aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien. Le but c'est que de faire en sorte d'être en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on veut transmettre.
Le Bivouac Festival, c'est donc du 29 au 31 août prochain dans la forêt d'Olen, près de Béthune, et vous pourrez réserver vos passes directement sur le site bivouacfestival.com. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair?
Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just too blind.
Chevalier sans reine, marin sans navire, pèlerin sans église, paysan sans ferme. Ami extraordinaire, venu de l'ordinaire, laissons-nous envoûter par les chamans troubadours. Tam-tam dans les Cévennes, tam-tam dans les vallées et les plaines, tam-tam dans les citadelles. Notre médecine, nos musiques, nos danses sont notre délivrance. Les modes passent, les lois s'effacent, mais la farandole reste. De Carmagnole en Carmagnole, elle mène la longue chenille humaine sur la piste de l'évolution. Tam tam dans les Cévennes, tam tam dans les vallées et les plaines, tam tam dans les citadelles.
Après 6 ans de travaux de rénovation, l'hôtel de ville de Douai a récupéré son salon blanc. Cette pièce, destinée entre autres à la célébration des mariages, impressionne par la qualité de ses lambris ornementés et peints en blanc. Son haut plafond blanc, auquel sont suspendus trois lustres majestueux, et des miroirs aux dimensions impressionnantes qui renforcent la luminosité exceptionnelle de cette salle, agrémentée de tentures jaunes olives assorties au mobilier bois et velours. La dernière rénovation du Salon Blanc, datée de 1858, date à laquelle de nouvelles boiseries ont complété celles datant du XVIIIe siècle. Et si le chantier de rénovation a duré près de 6 ans, c'est que de nombreuses surprises attendaient les artisans mobilisés. Frédéric Chéreau, maire de Douai.
On dit enfin, oui, effectivement. On a attendu depuis 2019. Les premières études datent de 2005. Le chantier a commencé en 2019 avec un coup d'arrêt dû au Covid puis à l'abandon de la première entreprise. On a tout relancé, tout repensé, tout refinancé et aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Et de quelle manière ? Mais en réalité, dans un bâtiment comme celui-là, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il faut élargir à l'hôtel de ville dans son ensemble. Donc on a commencé la rénovation en 1990. Le Salon Blanc en est un des moments majeurs, après avoir fait les façades, les toitures, le beffroi, etc. Et il reste encore du travail demain. Maintenant que le Salon Blanc est terminé, peut-être qu'il faudra se pencher sur la salle gothique, sur la salle des fêtes. Et puis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tout recommencer, parce que c'est un éternel recommencement. Un bâtiment comme celui-ci, c'est un trésor, mais un trésor dont il faut prendre soin.
Sauf que ces travaux ont permis des connaissances qu'on n'avait pas, notamment sur le Salon Blanc.
On a redécouvert ce Salon Blanc. Au fond, il n'avait jamais été démonté depuis sa pose en 1855 à peu près. Donc ça fait plus de 150 ans, 170 ans pratiquement, que ce Salon Blanc est en l'état. Et en le démontant, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. On a découvert que, par exemple, que sous le blanc, ça n'était pas que du bois. Pas toujours le même bois, pas toujours de la même époque. Le plafond n'était pas très bien arrimé. Les charpentes avaient besoin d'être refaites. Les encadrements de portes n'étaient pas très bien arrimés, etc. On a découvert du plomb. Voilà, donc on a mieux compris. Et aujourd'hui, le Salon Blanc n'est pas seulement repeint, restauré, il est dans sa structure beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Et tout ça maintenant est documenté, c'est-à-dire qu'on a toutes les pièces, tous les plans, tous les écrits. Donc pour les prochaines générations, ils sauront, ce qui n'était pas notre cas, ce que nous avons fait et comment entre 2019 et 2025.
Le coût total de l'investissement ?
Le coût total, c'est 2 millions d'euros. Ça a pratiquement doublé par rapport à l'estimation de départ. Il faut bien avoir en tête que c'est un coût qui va s'amortir sur au moins 100 ans et j'espère davantage.
Certains disaient, est-ce que c'est véritablement utile, voilà, que de rénover à un tel coût ce Salon Blanc ?
L'alternative à un moment donné, c'était de le fermer et de ne plus l'utiliser. Nous avons fait le choix. Quand on s'est lancé, on n'avait pas forcément en tête ce coût total définitif. Mais une fois qu'on est au milieu du gué, bah, il faut finir, il faut traverser. Et c'est ce que nous avons fait. Là-dessus, on a quand même financé la moitié à peu près par nos financeurs, l'État et le département du Nord, que je remercie très sincèrement parce que sans eux, sans l'État et le département du Nord, on n'aurait pas pu lancer ce chantier.
Salon Blanc, c'est le salon des mariages. C'est un écrin pour ceux et celles qui viennent s'unir ici.
Ben, les mariages ont déménagé pendant quelques années ici, dans cette salle gothique, qui est très belle, mais au sens propre du terme, en termes de lumière, entre la salle gothique et le Salon Blanc, c'est le jour et la nuit, hein. Voilà, et le Salon Blanc, avec sa couleur, avec sa lumière, il est totalement adapté pour les mariages. Les premiers ont lieu dès cet après-midi. C'est moi qui les célébrerai, et puis ensuite mes collègues prendront le relais dans les prochains jours. Et je pense que les mariés qui vont revenir seront très heureux de redécouvrir ces lieux. Puis évidemment, il n'y a pas que des mariages. Il y a beaucoup d'événements importants. Le déjeuner de Gaillan aura lieu ici. Il y aura des mises en valeur, je sais pas, d'associations, d'événements, etc. De ce salon, il sert à plein d'usages. Et voilà, il est de retour, et nous allons l'utiliser.
Que de dire aux Douaisiens, ce patrimoine est le vôtre, c'est important ça.
Exactement, je pense que les Douaisiens peuvent en être fiers, j'espère qu'ils et elles viendront le visiter. Et puis désormais, ce Salon Blanc est rouvert aux touristes, aux visiteurs. Et c'est tout un ensemble monumental dans cet hôtel de ville qui attire beaucoup de touristes, voilà, qui fait vivre le tourisme à Douai. C'est un lieu extraordinaire et un lieu dont nous avons le devoir de prendre soin.
Et enfin, la dernière question, c'est facile de travailler avec les monuments historiques ou tous ceux qui sont forcément partenaires sur une telle opération ?
L'architecte des bâtiments de France, les monuments historiques sont évidemment très regardants. Et ils ont raison, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un lieu comme celui-là. On ne peut pas faire ça par-dessus la jambe, c'est un objet d'histoire. Mais nos partenaires nous ont toujours accompagnés, aidés à trouver des solutions, à avancer. Et je veux remercier aussi nos ingénieurs à l'interne. Sébastien Perriot, Maxence Rémoleux, Alexandre Davril, qui ont été vraiment des chefs d'orchestre remarquables sur ce projet, aux côtés de Vincent Brunel, l'architecte des monuments historiques, et de Madame Stievenard, architecte des bâtiments de France, et puis les entreprises. On n'imagine pas le nombre de petits soucis, de petites difficultés, de petites énigmes qu'on rencontre au quotidien en se demandant « mince, comment on va faire ?» et on se gratte le front. Et à chaque fois, les entreprises et nos ingénieurs ont trouvé des solutions, ont avancé, ont passé étape après étape pour aboutir à ce résultat.
Un long chantier de rénovation qui permettra aux touristes d'apprécier toute la diversité architecturale de l'hôtel de ville de Douai qui, en son sein, illustre toute la richesse historique de la cité des géants. Un trésor préservé par des artisans et ingénieurs aux compétences exceptionnelles. Alexandre Davril, chef de projet à la ville de Douai.
Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des bureaux d'études, il y a des ingénieurs, des bureaux d'études techniques qui ont travaillé sur le projet pour mettre en place toutes les solutions qui étaient nécessaires à la résolution des problèmes et pour pouvoir avancer sur le dossier. Et sans eux, de toute façon, le dossier ne peut pas se faire, parce que c'est eux qui sont à la base de tout. À partir du moment où les problèmes sont trouvés, il faut solutionner. Et c'est solutionner dans une architecture du 18e, solutionner avec les solutions actuelles, avec les méthodologies actuelles.
Les éléments que l'on voit aujourd'hui ici sur les murs, les éléments de décoration, les boiseries, le plafond, les lustres sont les mêmes que ceux qui ont été démontés au cours de la rénovation.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Tout a été en fait, tout a été déposé avec soin, emmené en atelier, restauré en atelier et tout est revenu il y a quelques mois. Donc on parle des lambris. Pour à peu près 50% des lambris, les lustres ont été déposés, les miroirs sont partis en atelier. Tout ce qui est mobilier a été restauré, donc ici sur place ou en atelier également par une entreprise douaisienne. Et voilà, mais c'est vrai que tout a été déposé. Au niveau des structures, les plafonds, eux, ont été tirés sur place, c'est-à-dire qu'ils ont été moulés sur place avant dépose. Les moules sont partis en atelier en région parisienne, ça a été tiré en atelier et c'est revenu, pareil, au cours du chantier, au fur et à mesure, l'acheminement du matériel.
Certains peuvent penser que c'est facile de démonter que de remonter quand on le dit comme ça.
Ouais.
Ça paraît simple, c'est juste un peu plus compliqué que ça.
C'est ça, c'est un travail d'orfèvre, un travail d'artiste. Hein. De toute façon, les entreprises du patrimoine qui ont œuvré sur le chantier étaient vraiment avaient un savoir-faire qui est somme toute exceptionnel. Faut pas se leurrer. Hein. Ce sont des artistes à part entière. Hein. La méthodologie, ça a été donc la charpente. Dans un premier temps, la charpente qui est phénoménale, qui est grandiose, mais qui ne se voit plus aujourd'hui parce qu'elle est cachée par les plafonds. Mais il faut savoir que, par exemple, les plâtriers, les staffeurs, ont fait des relevés d'empreintes sur un plafond existant qui était en train de s'effondrer. Et de fait, on a l'impression d'avoir une simple rénovation, juste un coup de blanc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on a notre œil à ras du plafond, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des petits défauts d'altimétrie et autres qui se perdent dans l'ensemble. Mais en fait, ils ont seulement tiré sur ce qui est existant et reposé comme à l'identique. Donc c'est d'où le travail encore plus impressionnant au niveau de la finition.
C'est-à-dire que si l'on aujourd'hui regarde le Salon Blanc en 2025, on le retrouve tel qu'il était peut-être en 1980.
C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on a l'œil aguerri, qu'on a l'œil sur les, que ce soit sur les boiseries, sur les petites déformations et autres, on a l'impression qu'on pourrait presque dire qu'il n'y a qu'un coup de blanc qui a été mis.
Mais un coup de blanc n'aurait pas suffi parce que c'est on peut dire que le bâtiment était malade.
Alors, le bâtiment était malade, oui et non. En fait, il y a eu des découvertes suite à des infiltrations. Hein, l'eau est l'ennemi des bâtiments. Donc, il y a effectivement, comme la structure est en bois, il y a eu quelques découvertes. Et c'est ça qui a fait que le chantier a dû s'arrêter pendant quelques années. Parce qu'après, une dépose complète d'un plafond, c'est pas la même chose qu'un nettoyage, un lessivage, une reprise d'enduit et refaire un coup de blanc derrière, effectivement. Mais aujourd'hui, le bâtiment est traité, tout va bien. On peut dire que c'est une page qui se tourne pour la ville de Douai. Le Salon Blanc redémarre. Ça fait partie de la même des Douaisiens. C'est la population l'attendait. La fierté pour certaines familles de pouvoir marier leurs enfants ici, ça va être... c'est un cadeau, c'est grandiose. C'est une âme retrouvée. C'est une âme retrouvée.
Et ce qui est fabuleux dans cet hôtel de ville, c'est que quand on passe d'une salle à l'autre, que ce soit la salle des fêtes, que ce soit la salle gothique, le salon blanc, enfin, on est dans des univers mitoyens totalement différents.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui fait aussi le charme et le cachet de l'hôtel de ville. On passe une porte et on se retrouve d'un salon blanc à une salle médiévale. On retrouve une salle un peu plus métallique avec la salle des fêtes. Tout est... C'est trois univers, trois salles, trois ambiances. C'est ça qui fait le cachet, le charme de l'hôtel de ville. Mais on tombe vite amoureux de la ville de Douai. Quand on y travaille, on est... Les personnes, mais le patrimoine y est grandiose. Il y a, parce qu'on parle de l'hôtel de ville, mais on a tous ces bâtiments en périphérie ou en cœur de ville qui ont une âme, qui sont du patrimoine classé et qui sont magnifiques. Moi, j'ai la chance de pouvoir être le chef de projet qui gère ce patrimoine. Et aujourd'hui, on tombe vraiment, je ne vais pas dire amoureux de la ville, mais on aurait du mal à s'en passer en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses de mon côté.
Parce que c'est vrai que quand on ambule dans les rues de Douai, c'est un petit peu à l'image de l'hôtel de ville. On tombe d'une époque à l'autre, quoi.
C'est ça, tout à fait. Ben, c'est l'histoire. C'est tout simplement l'histoire qui veut ça. Douai a une histoire médiévale phénoménale. Les aléas de la vie, la guerre et autres qui ont fait des destructions, des reconstructions, des façades années 60. On peut tomber après, juste à côté, sur une façade du 18e. Puis après, on a encore une maison du 15e. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait tout à l'heure le sous-préfet qui parlait de l'âme touristique et de faire revenir les gens. C'est une ville qui a vraiment le mérite d'être connue.
Et pour profiter du patrimoine douaisien et découvrir, entre autres, le salon blanc de l'hôtel de ville, mais aussi la salle médiévale ou encore le beffroi, rendez-vous sur douaisie-aglotourisme.com. La rénovation du salon blanc de l'hôtel de ville de Douai, un reportage de Hervé Dujardin pour Radioscape Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour, vous écoutez Radio Campus, fréquence 106,6, ou bien sur internet sur le site www.campuslille.com.
sait plus comment retourner chez sa mère. Son GPS lui ment, c'est une vraie galère. Pourtant il connaît bien, 30 ans qu'il fait la route. Mais quel est ce chemin, cet étranger? Il doute, il appelle maman, lui dit je suis perdu. Mais demander aux gens, cela ne se fait plus. Elle répond attends, je vais voir sur ma pie. À quel soulagement, quelle aventure. Oh si, il est content Toto, avec sa petite machine, une poule et un couteau. Ça tourne sa turbine. Faut dire que son cerveau est couvert de poussière. S'il le frottait ce veau, un génie prendrait l'air. Son portable est gentil pour la nouvelle année. Envoie les vœux pour lui à tout ce qu'il connaît. C'est bien moins de soucis. Il n'a pas à penser à ses nombreux amis qu'il ne voit plus jamais. Il a un beau frigo super intelligent qui lui dit ce qu'il faut acheter tout le temps. Il est tombé en panne, ben ça l'a pas choqué de manger des bananes. 4 mois d'affilée, il est content Toto, avec sa petite machine, une poule et un couteau. Ça tourne sa turbine. Faut dire que son cerveau est couvert de poussière. S'il le frottait ce veau, un génie prendrait l'air. Sa voiture s'arrête sans qu'il ait demandé. Lui ouvre sa braguette, lui dit qu'il doit pisser. Le masse doucement car il est énervé. Il doute maintenant, il était dans ses vrais. Sa brosse à dents clignote pour qu'il brosse plus fort. Ses chaussures le stoppent quand il fait trop de sport. Son miroir lui conseille la crème qu'il lui faut. Son assiette surveille qu'il ne mange pas trop. Sa bouche le retient s'il oublie les oreilles. Son lit serre les liens s'il manque de sommeil. Même sa cave à vin est pire que tyrannique. Quand à 3 grammes 20, elle appelle les flics. Il a un doute Toto devant sa petite machine. Une poule et un couteau, ça tourne sa turbine. Mais comme son cerveau est couvert de poussière, Toto est tout penaud, son génie désespère. Pour contrôler le tout, un bel ordinateur, il bave, il devient fou, c'est le prix du bonheur. Plus besoin de penser, il y a Wikipédia. Plus besoin de chercher, Google est là pour ça. Plus besoin de sortir, le monde vient à lui. Plus besoin de souffrir et plus besoin de vie. Ne reste que mourir, encore qu'il ne fait pas. Mais ça faut pas le dire, Toto ne le sait pas. Il a perdu Toto, rigole les machines. Où qu'il est ton cerveau, Matrix est aux cuisines. Où qu'il est ton cerveau, étouffé de poussière. Il est trop tard Toto, ton génie sans la bière. Tu as perdu Toto, rigole les machines. Où qu'il est ton cerveau, Matrix est aux cuisines.